Notre séquence rencontre solidaire sur Phare FM Agno-Wissembourg, c'est aujourd'hui avec Pierre Yérémian, responsable de l'ONG Interdéveloppement et Solidarité. Il va nous parler de la République démocratique du Congo, du travail du professeur Mukwege et bien sûr de l'ONG et de leurs projets. Pierre Yérémian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes retraité, mais très actif.
Alors, c'est ça, retraité non pratiquant.
Retraité non pratiquant, c'est bien ça. Et vous êtes responsable d'une ONG Interdéveloppement et Solidarité.
Exact, l'ONG IDS en sigle.
Expliquez-nous exactement ce que c'est et où est cette ONG.
Alors, l'ONG IDS, Interdéveloppement et Solidarité, a son siège à Strasbourg. Elle est déclarée comme une association locale, mais elle a également une antenne juridique à Bukavu, au sud de la RDC, à côté du Rwanda, à la frontière du Rwanda, Bukavu étant le chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Et là-bas, donc, nous avons depuis plusieurs années un partenariat actif avec le professeur Dr Mukwege, prix Nobel de la paix, qui est également le médecin directeur de l'hôpital Panzi, le fameux hôpital au sud de la ville. C'est un hôpital de 450 lits qui a été tristement rendu célèbre parce qu'il a accueilli et il accueille encore chaque année des centaines et des centaines de victimes de violences sexuelles dans cette région du monde où chaos militaire, économique, social règne.
Vous étiez déjà là pour nous parler de la République démocratique du Congo. Comment ça se passe en ce moment là-bas, la situation politique, la sécurité? Donnez-nous un peu des détails par rapport à
cette... Actuellement, et je dois dire malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée. Il y a, si vous voulez, une situation de guérilla, de guerre sans qu'on dise le nom, avec des tensions énormes, des tensions à la frontière de la RDC, puisque c'est un immense pays, presque quatre fois grand comme la France, le plus grand pays francophone au monde, près de 100 millions d'habitants. Mais ce pays de la RDC, qui fait partie des pays les plus pauvres du monde, en réalité, il fait l'objet de la convoitise de beaucoup de gens, et notamment des multinationales, puisque nous avons dans notre poche ou dans notre cartable un morceau de la RDC avec nos portables et avec les composants électroniques qui viennent du sol et du sous-sol de la RDC.
Donc c'est la richesse du pays.
La richesse du pays, mais aussi la situation géopolitique et, si vous voulez, des questions qui n'ont pas été réglées depuis le génocide du Rwanda, puisque ce génocide terrible qui a touché des centaines et des centaines de milliers de personnes s'est exporté vers la RDC. Et là, on trouve aujourd'hui des dizaines et des dizaines de groupes armés qui continuent à semer la terreur parmi les populations civiles.
D'accord, mais les autorités ?
Les autorités... J'ai envie de dire quelles autorités? Bien sûr, il y a un pouvoir politique à Kinshasa, il y a des institutions, mais soyons honnêtes, sans trop faire d'ingérence, on peut dire que les institutions ne fonctionnent pas normalement, que la justice est absente, puisque à l'heure où je vous parle, malgré les dénonciations internationales, malgré ce fameux rapport mapping qui a renseigné dans un rapport de 600 pages des centaines de crimes commis, des crimes collectifs et individuels touchant des centaines de milliers de personnes, malgré ce rapport mapping, il n'y a pas eu de justice qui a été rendue. On n'a pas puni vraiment les coupables qui sont connus du reste.
Est-ce que ça a une incidence sur la sécurité alimentaire?
Oh là là. Alors là, c'est ce qui m'a amené au Congo. Parce que, je veux dire, nous, les Européens, on a assez fait de bazar là-bas. Donc, si on peut apporter une aide ponctuelle, technologique, une expertise, il faut le faire. Mais attention, nous ne sommes pas dans notre pays et nous devons aider avec beaucoup de respect, de tact, les populations civiles et les institutions qui acceptent notre aide. Et c'est le cas notamment du docteur Mukwege. Il y a de nombreuses ONG comme la mienne qui aident l'hôpital. Et en plus de cela, IDS, Interdéveloppement et Solidarité, en dehors de l'hôpital, a pris en charge jusqu'à ce jour, et malgré la crise du Covid, plus de 100 vulnérables, à la fois des filles victimes, mais aussi des orphelins, dans le domaine de l'alphabétisation, mais aussi de la formation professionnelle agro-pastorale. Parce qu'il faut aller vers l'autonomie sociale et économique des populations qui sont déplacées.
Au micro de Phare FM Agno-Wissembourg, Pierre Yérémian, responsable de l'ONG Interdéveloppement et Solidarité, IDS, pour la République démocratique du Congo. Vous y étiez, il semble.
Oui, au mois d'octobre. Oui.
Voilà. Comment on se sent là-bas, au niveau sécurité?
Bon, il faut faire très attention, parce que malheureusement, il y a toujours beaucoup, beaucoup d'insécurité. Je venais de lire un rapport ces derniers jours qui recense uniquement pour le Sud Kivu plus de 800 crimes commis, notamment dans le pays profond, dans les territoires, dans les groupements, mais aussi dans les villes. Plus de 800 crimes commis. Alors, ce sont des crimes pour diverses raisons, mais il faut dire que la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, malgré le couvre-feu, malgré le changement ces dernières années du président à Kinshasa, honnêtement, la situation ne s'est pas améliorée.
On va parler du docteur Mukwege. Vous le connaissez?
Oui, je le connais. Je l'ai rencontré à Strasbourg dans le cadre de la remise du prix Sakharov. Il m'a invité à Panzi, à l'hôpital, et je continue à aider l'hôpital en plus des actions humanitaires. Il m'a demandé également de rédiger le plan stratégique de l'hôpital à la demande de la Banque mondiale, puisqu'ils ont un gros projet de rénovation et d'agrandissement de cet hôpital Panzi, qui actuellement fait 450 lits, mais qui va aller dans les prochaines années vers 600 lits, parce que la demande est très, très importante.
Ça fait combien de temps que vous connaissez le docteur Mukwege?
Alors, ça fait maintenant 6 ans.
Qu'est-ce qu'il fait actuellement?
Alors, le docteur Mukwege est toujours le médecin directeur de son hôpital, mais, comme vous le savez, il est de plus en plus sollicité à l'étranger. Depuis le jour où il a pris son bâton de pèlerin, il est allé dans les instances internationales, notamment l'ONU, mais aussi l'Union européenne, en tapant du poing sur la table en disant « ça suffit, ces crimes impunis, ces milliers de femmes violées pour des raisons politiques, pour que les occupants venus de l'extérieur ou d'autres territoires puissent diviser les communautés. » Et bien, depuis ce jour-là, il est devenu un peu le porte-parole des sans-voix. Mais en même temps, les menaces sont de plus en plus fortes sur sa personne, parce qu'il dérange.
Comment il est protégé, en fait?
Alors, lorsqu'il est à Bukavu, il est dans son hôpital. Il a une maison, la maison du directeur. Mais cette maison, à l'intérieur de l'hôpital, est protégée nuit et jour par un contingent de casques bleus de l'ONU, qu'on appelle la MONUSCO. La MONUSCO est dans la région. Elle essaye de faire ce qu'elle peut pour contenir la violence, mais je dois vous dire que l'efficacité n'est pas vraiment au rendez-vous, parce que c'est un immense territoire et la MONUSCO ne peut pas être de partout. Il y a plus de 300 groupes armés paramilitaires qui se trouvent dans plusieurs territoires de l'est de la RDC.
Est-ce que la voix du docteur Mukwege est entendue? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent quand même?
Alors, il y a des choses qui bougent quand même, mais c'est un combat incessant. Le docteur Mukwege est ouvert y compris aux institutions actuelles. Il a été reçu par le président de la République, il a un lien, une relation d'information, de communication avec les politiques locaux, mais aussi internationaux. Mais je crois quand même qu'il est en même temps déçu, parce que les lignes ne bougent pas vraiment. Par exemple, le docteur Mukwege réclame depuis des années que les recommandations du rapport Mapping soient mises en œuvre, c'est-à-dire qu'il y ait un tribunal international qui juge les coupables de ces crimes horribles qui ont eu lieu il y a une vingtaine d'années, mais qui se poursuivent encore aujourd'hui dans la guérilla et dans les territoires.
L'hôpital reçoit quel type de population ?
Alors, c'est un hôpital général de référence.
Oui.
C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un centre hospitalier général pour le Sud Kivu. Il y a d'autres hôpitaux, bien sûr, mais sa spécificité à lui, à cet hôpital, elle tourne autour des spécialités du docteur Mukwege. C'est un gynécologue, d'une part, c'est un pédiatre. Il a développé vraiment des spécialités en gynécologie, en pédiatrie. C'est un expert international dans le domaine de la réparation des dommages des femmes, notamment au niveau du vagin. Il répare les femmes. On parle du reste de l'homme qui répare les femmes dans ce fameux film qui le fait connaître dans le monde entier.
Vous écoutez toujours Phare FM Haguenau-Wissembourg. Nous sommes avec Pierre Yérémian qui nous parle de l'ONG IDS, Interdéveloppement et Solidarité pour la République démocratique du Congo, et le travail qui se fait à l'hôpital Ponzi avec le professeur Mukwege. Pierre Yérémian, quel est votre rôle dans les projets de l'hôpital ?
Dans les projets de l'hôpital, je suis consultant hospitalier, formateur pour toutes les démarches transversales et d'organisation. C'était mon métier avant ma retraite, mais ça continue maintenant bénévolement. Donc, l'hôpital m'a demandé il y a 2 ans d'accompagner l'ensemble des chefs de service pour l'écriture du projet stratégique d'établissement. Ça a été demandé par les bailleurs de fonds, notamment par la Banque mondiale, qui a pris la décision de rénover entièrement cet hôpital. C'est une grosse opération. Malheureusement, le projet a été un peu retardé avec le Covid et avec l'épidémie Ebola. Mais enfin, ça poursuit son cours. Les procédures sont longues, mais néanmoins, les choses avancent. Et en plus de la Banque mondiale, vous avez aussi des pays comme la France, le Luxembourg, et l'Union européenne aussi, qui sont des bailleurs qui aident l'hôpital sur des projets spécifiques, comme par exemple les blocs opératoires, le service des urgences qui est en train d'être rénové, la stérilisation centrale. Voilà, vous savez, cet hôpital a de l'équipement, c'est vrai, mais ce n'est pas le niveau d'un centre hospitalier universitaire en France. Il a vraiment besoin encore de soutien. Il a besoin de technologie pour continuer à remplir le plus efficacement possible sa mission.
Et parlons un peu Covid, comment ça se passe là-bas ?
Alors le Covid actuellement dans le Sud Kivu n'est pas actif, heureusement. Il y a eu quelques centaines de morts il y a un an ou deux. Mais là, pour le moment, enfin en octobre en tous les cas, la réanimation n'était pas envahie par des patients Covid. Donc, on espère que vraiment les choses ne vont pas s'empirer. Parce que si vous avez une vague comme en Europe, ça serait la catastrophe. On ne peut pas respecter les gestes barrières là-bas, dans un pays où il n'y a pas de l'eau courante, où il y a très très peu de moyens sanitaires et médicamenteux.
Comment, ici en France, on peut vous aider ?
Au niveau de l'ONG, là je parle au niveau de l'ONG, parce qu'au niveau de l'hôpital, vous avez des grands bailleurs de fonds, c'est très bien, qui aident efficacement, mais les besoins sont quand même énormes. Au niveau de l'ONG, que faisons-nous concrètement ? À l'extérieur de l'hôpital, nous avons pris en charge plus de 120 enfants, adolescents, vulnérables, c'est-à-dire sans ressources. Et parmi ces jeunes, Parmi les filles, notamment, vous avez de nombreuses filles victimes de violences sexuelles. Donc, que faisons-nous ? Nous avons mis en place un cycle d'alphabétisation et en 2021, ce cycle d'alphabétisation touche environ 90 bénéficiaires, 3 classes d'alphabétisation sur 3 sites du Sud Kivu. En plus de cela, nous avons ouvert 2 ateliers coupe-couture pour les filles qui, notamment, ont suivi le cycle d'alphabétisation. L'idée, c'est que nous aidions un maximum ces filles à être autonomes sur le plan économique et financier, ce qui va les aider à se reconstruire et à construire aussi une famille.
Comment vous joindre pour vous aider financièrement ?
IDS a un site du même nom, IDS, ou Asso IDS, et l'on peut accéder à ce site et faire un don en ligne, notamment avec notre cagnotte Litchi qui est ouverte. Et je voudrais juste rappeler aux donateurs qui sont contribuables qui peuvent avoir une déduction fiscale de 66% s'ils sont imposés en France. Il suffit que et ils puissent nous donner leurs coordonnées en message privé, de manière à ce qu'on leur envoie le reçu CERFA pour leur déclaration fiscale, et ils seront donc déduits en termes d'impôts dans l'année qui suit. D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose. On peut aussi faire des dons sans déduction fiscale, directement, ou par un chèque au nom de IDS. Nous avons l'adresse sur le site.
D'accord.
Et donc, je voudrais aussi préciser qu'en plus de nos quelques actions permanentes comme l'alphabétisation, les formations coupe-couture, nous aidons ponctuellement des écoles qui n'ont absolument rien. C'est inimaginable. Il y a eu la rentrée scolaire, par exemple, il y a quelques semaines, avec un peu de retard. Eh bien, je suis allé voir des classes où il n'y avait pas un cahier, il n'y avait pas un stylo. Et même les professeurs me suppliaient de leur accorder quelques boîtes de craie. Donc, vous voyez que avec ce peu de moyens, les conditions pour transmettre un enseignement efficace sont vraiment compromises. Donc nous aidons plusieurs écoles en achetant des cahiers. Nous voulons aussi ponctuellement nous occuper des gens qui perdent tout. C'est notamment le cas à Bukavu où il y a de nombreux incendies, il y a des éboulements de terrain et nous avons aidé là récemment une 20aine de familles. Nous avons également aidé en 2021 80 familles qui ont échappé au volcan de Goma, puisque une grande partie de la population de Goma, au nord Kivu, a été déplacée. Et actuellement, il y a encore beaucoup de personnes dans les camps de transit.
Est-ce que les dons en nature sont aussi possibles ?
Alors, nous avons un problème avec les dons en nature. Ces dons en nature sont les bienvenus, sauf que nous avons un problème de transport. Ça coûte très cher. J'ai moi-même envoyé de nombreux colis et malheureusement, beaucoup de ces colis ne sont jamais arrivés à leurs bénéficiaires. Donc nous préférons acheter sur place. Avoir l'argent, vérifier, acheter sur place. Nous avons un coordonnateur que nous payons sur place régulièrement, avec lequel je suis en contact presque chaque jour, qui tient une comptabilité. Et ainsi, nous pouvons suivre et évaluer régulièrement la situation. C'est très, très important. Nous ne voulons pas perdre un seul euro qui nous est accordé pour cette œuvre.
Pierre Yérémian, pourquoi vous faites tout ça ?
Ouais, alors écoutez, quand j'étais à Bukavu, le docteur Mukwege m'a invité à l'inauguration d'un hôpital dans la campagne, dans la brousse. Et là, il y a eu un déclic. Un déclic qui est arrivé de cette façon. Nous, les invités, on nous a donné un bon plateau repas avec une cuisse de poulet, du riz, du manioc. Je crois qu'il y avait même un fruit. C'était vraiment un repas de luxe. Et il y avait autour de moi des centaines d'enfants qui dévoraient mon plateau des yeux. Et là, j'ai été très mal. J'ai dit, je ne peux pas manger ça alors qu'ils meurent de faim, ces gosses. Mmh. Alors, j'ai appelé quelques gosses près de moi. J'ai dit, venez ici, vous allez prendre ce qu'il y a sur le plateau. Et là, ils se sont jetés comme des affamés. Le plateau a volé en l'air avec la cuisse de poulet. Le riz est tombé dans la boue et les enfants ont plongé dans la boue pour ramasser les grains de riz. Et là, je me suis dit, mon vieux, avant de mourir, il faut que tu fasses quelque chose. Hein. Mmh. Et donc, dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. Et c'est comme ça que j'ai décidé, en plus de mon action à l'hôpital, de faire quelque chose pour les pauvres, tout simplement, pour les orphelins, et essayer d'aider pour la formation professionnelle. Voilà pourquoi je fais ça. Parce que je pense que tout ce que notre main trouve à faire avec notre force, il faut le faire avant qu'il soit trop tard. Alors, c'est une goutte d'eau.
J'allais vous poser la question, vous avez l'impression que c'est une goutte d'eau.
Absolument. Oui. Mais enfin, quand même, pour les gens qui reçoivent une formation professionnelle, pour les jeunes qui peuvent aller à l'école, pour eux, ce n'est pas une goutte d'eau. C'est quelque chose qui peut faire la différence dans leur vie. Et ça, ça me réjouit énormément.
Vous êtes entouré de bénévoles ?
Alors oui, nous avons une équipe de bénévoles ici, dans le cadre de notre conseil d'administration. Et nous avons là-bas sur place quelques bénévoles avec un coordonnateur, Josué, qui est sur le terrain régulièrement, comme je le disais. C'est un ingénieur agronome et un enseignant. Nous le soutenons, nous lui donnons une indemnité très modeste, mais quand même, nous le soutenons. Et disons, moi-même, je suis les affaires de très très près.
Pierre Yérémian, le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs ?
Eh bien, écoutez, je les remercie de leur écoute. C'est vrai qu'on a été un petit peu bloqués à cause du Covid. Nos soirées humanitaires n'ont pas pu se dérouler normalement, mais quand même, nous faisons des actions ponctuelles, comme par exemple ce marché à la ferme Burger que nous aurons le 1er décembre à Steinzelt. Donc là, les organisateurs nous ont proposé de faire un stand d'information. Donc, je ne sais pas si je prononce bien Steinzelt, oui, près de Wissembourg, le 1er décembre, entre 16h et 18h. Et si vous voulez, si les auditeurs dans le coin peuvent nous faire un petit coucou, venir nous voir, nous avons un stand d'information avec aussi quelques proposition pour Noël. C'est une ferme bio que Thomas Burger et toute son équipe organisent. Et voilà, c'est une occasion pour l'Alsace du Nord de nous rencontrer. Et sinon, voilà, j'espère que nous continuerons à avoir bientôt à nouveau des soirées humanitaires.
Oui, pour d'autres événements, donc, pour vous faire connaître, c'est ça. Eh bien, merci pour toutes ces informations.
Mais c'est moi qui vous remercie, Mireille. Merci beaucoup pour votre accueil à nouveau à Phare FM à Guenon.
C'était Pierre Yérémian, responsable de l'ONG Interdéveloppement et Solidarité, IDS. Vous pouvez aider cette ONG qui travaille en République démocratique du Congo en partenariat avec l'hôpital Ponzi du professeur Mukwege en allant sur le site IDS Interdéveloppement Solidarité pour les aider. Vous y trouverez toutes les infos et la possibilité de faire un don en ligne.